6h02, ciel généralement nuageux, moins 11 degrés. Nous sommes vendredi 5 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est une journée quand même pas si mal qui se prépare. Ça peut être un peu venteux par endroits ce matin, mais en gros, c'est un ciel généralement nuageux avec un maximum de moins 8 degrés. À travers tout ça, il y a des moments ensoleillés. Pour la nuit de vendredi à samedi, on prévoit moins 13. Et demain, ce sera couvert avec aussi des périodes de soleil moins 5 degrés. Durant la nuit, c'est moins 15. Et pour dimanche, on prévoit une superbe journée, moins 5 degrés et du temps ensoleillé. En tout cas, on peut dire que jusqu'ici, puis on est quand même rendu au mois de mars, l'hiver n'a pas été trop dur. Il y a eu des bonnes précipitations, il y a eu des périodes plus froides, mais c'est un hiver quand même, disons, assez modéré quand on compare à d'autres hivers qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Et si je regarde un peu plus à long terme, donc vers les jours de la semaine prochaine, bien, on note un réchauffement des températures. Par exemple, lundi, 2 degrés. Mardi, 7 degrés avec du soleil. Et mercredi, ça pourrait même aller jusqu'à 11 degrés. Et je rappelle que le changement d'heure est prévu, pas en fin de semaine, mais l'autre week-end. Juste un mot sur les cas de fraude. C'est sûr que le cas qu'on mentionne, qui touche des gens de Grimbé, c'est pas un cas unique, loin de là. C'est plein de cas de fraude. À peu près, là, toujours la technique du téléphone à répétition avec un numéro de la région. Ça m'est arrivé deux fois en l'espace de peut-être trois semaines, là, pendant un après-midi où ça n'arrête pas de sonner. Tu deviens, là, disons, assez, assez frustré. Puis il n'y a rien à faire. Et je sais que les fraudeurs comptent sur le volume en se disant 99,9% des gens ne vont pas tomber dans le panneau, mais malheureusement, il y en a qui vont tomber et qui vont fournir des informations confidentielles. Tu ne donnes pas à personne, par courriel, par numéro de téléphone, ton numéro d'assurance sociale. Bon, je vous raconte l'histoire d'un monsieur qui m'écrit, son père, 91 ans. Tu sais, normalement, là, au parfum, là, puis il s'est fait enfiroiper lui aussi. Puis il est allé chercher des cartes prépayées. Beaucoup de cartes prépayées. De Google et autres. Puis là, son fils m'écrit. Puis il me dit, la police ne peut pas faire grand-chose. Comment mon père peut se faire rembourser? Sérieusement, je ne sais pas. Il y a une plainte, c'est sûr, à faire. Là. Mais comment récupérer l'argent? Les cartes ont été achetées. Et là, les cartes sont dans la nature. Donc, une fois de plus, soyez extrêmement vigilants avec cette sollicitation. Là. Puis des fois, c'est un moment de distraction qui fait qu'on peut donner des infos comme ça personnelles et privilégiées. Bon, parlons de la campagne de vaccination. D'abord, ça se passe bien dans la plupart des endroits. J'ai un ami hier, par exemple, qui est allé se faire vacciner au Palais des Congrès. Et il m'a appelé après, il dit « Écoute, que de bons mots pour, d'abord, l'organisation, le personnel. Son rendez-vous était autour de 4 heures. Il est arrivé à 3h30. Il voulait attendre avant de se mettre en ligne. Puis un agent de sécurité qui lui a dit « Non, non, allez-y, ça va bien, ça roule. » Puis bon, vacciné 4 heures moins 10. Il y a eu le Pfizer. Puis après ça, bon, ben, t'as la période où on te demande d'attendre. Puis il a pu quitter. Et bref, ça roule bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins et que le Canada, on le voit ce matin avec des chiffres dans la presse, est au 43e rang des pays dans le monde. Bon, on a des pays qui vaccinent beaucoup, bien sûr Israël et d'autres. Et en Europe, on a également des problèmes d'approvisionnement. Ça traîne de la patte. Et on l'a vu quand même depuis quelques jours, là, les pays qui s'arrachent les vaccins. L'Italie qui garde des vaccins qui sont destinés à l'Australie. Puis là, il y a comme un embargo qui a été imposé. Et là, les vaccins ne partent pas. L'Australie dit, ben on va faire autrement. Et entre-temps, le Canada affirme toujours, M. Trudeau dit que les promesses, les engagements des compagnies vont permettre à l'ensemble des Canadiens d'être vaccinés quelque part cet été, tous ceux qui le voudront. Et là, vous avez Pfizer qui est déjà, bien sûr, approuvé. Vous avez Moderna. Vous avez AstraZeneca. D'ailleurs, les dernières recherches montrent qu'avec les nouvelles données, que le vaccin est plus efficace qu'on croyait pour les gens de 65 ans et plus. Alors, on sait qu'au début, il y avait un manque de données. Il y a eu des positions différentes selon les pays. La France disait non, non, on ne le donne pas aux gens de 65 ans et plus. Finalement, oui, on le donne. Alors, donc, une bonne nouvelle du côté d'AstraZeneca. Puis, tu as le vaccin de Johnson qui s'en vient aussi et qui pourrait peut-être être le vaccin qui va vraiment changer la donne. Vaccin à une dose. Et donc, pour voir vraiment une vaccination massive. Là, on n'est pas dans une vaccination massive. On est dans une vaccination au maximum de ce qu'on a comme vaccin. Et c'est sûr que c'est le problème, là. C'est pas qu'on n'est pas capable de vacciner, c'est qu'on n'a pas la matière première. Bon. Et là, on nous promet que ça va rentrer, puis de plus en plus, tant mieux, puis les gens vont être vaccinés, puis on voit que dans les CHSLD, par exemple, l'effet du vaccin se fait sentir. Et là, ce matin, je regarde les courriels puis les journaux. Puis c'est sûr que tout le monde lève la main en disant « Je suis prioritaire, je veux être vacciné. » Puis tout le monde a une maudite bonne raison. Vous avez des l'UPA, par exemple, qui dit « Ben, on fait venir de la main-d'œuvre de l'extérieur, il faut les vacciner, là. Ils sont essentiels à la production de nos légumes cet été. » Puis là, on est au mois de mars, ça s'en vient, là. Vous avez également des... Jean Manoir Laval, où on attend une RPA, fait partie des résidences Soleil. Et là, il y a des éclosions, puis ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on ne les a pas vaccinés. Je sais que toutes les RPA ne sont pas vaccinées, là. Il y a encore des opérations qui se font. Alors, ils disent, bien là, ça n'a pas d'allure, puis c'est quand même, hey, c'est un immeuble de 23 étages, puis bon. Puis vous avez aussi tous les proches, les parents, les aidants, de personnes qui ont des problèmes de santé. Ça va du cancer, ça va à la déficience ou au handicap, qui disent il faut les vacciner. Alors, c'est clair qu'il y a une demande qui est forte pour le vaccin, mais le problème, ce sont les livraisons. Et hier, en fait, avant-hier, on a appris donc que la deuxième dose serait donnée, dans la plupart des cas, après un délai de 4 mois. La compagnie Pfizer n'a pas voulu vraiment commenter. En fait, la seule réaction de Pfizer, c'était de dire, ben nous, nos données sont basées sur un vaccin avec deuxième dose dans les 21 jours. Mais on le voit là, un peu partout au Canada, on vaccine une dose, puis après ça, le délai peut aller jusqu'à 4 mois pour la deuxième. Tout ça avec comme objectif de vacciner le plus de gens possible. Si tu avais plus de vaccins, ça serait probablement différent. Alors voilà pour ce qui est de... la vaccination. En plus, vous avez vu hier les projections. On pourrait y revenir dans le détail, là, mais on sait déjà que les variants, les requins variants, comme le docteur Arruda les baptise, c'est la grande préoccupation. Donc, les variants, ils sont présents, ils sont contagieux, et le nombre de cas sous enquête est en croissance. Et là, on arrive avec la fin de la relâche, le retour en classe. Quel sera l'effet dans 10 jours, dans 2 semaines? C'est pas mal la clé. Et là, quand ils font des projections selon le degré de respect des règles sanitaires et tout ça, ben, ils anticipent des surcharges d'hospitalisation, puis donc une autre pression sur le réseau de la santé. On a souvent utilisé l'expression « angle mort » pour parler de certains patients la crise de la COVID fait en sorte qu'on les oublie, ou en tout cas qu'on en parle moins. On a beaucoup parlé des patients non-COVID, par exemple, des gens qui sont en attente pour une chirurgie, des cas de cancer non détectés parce qu'il n'y a pas, quand il y a du délestage, par exemple, la même disponibilité pour les tests, pour les analyses. L'angle mort, là, ce sont des gens qui souffrent des effets de la COVID, mais qui passent sous le radar et moins... des cas moins médiatisés de façon générale. Et ce matin, il y a un cas dans Le Devoir qui mérite qu'on s'y arrête pour vrai, là. Ça se passe au Centre de soins de longue durée Saint-Laurent. Et ce sont des gens qui témoignent de ce qui se passe à l'intérieur depuis des mois maintenant. Et c'est un texte de Stéphanie Vallet qui parle que des demi-portes verrouillées pendant plusieurs mois, impossibilité de prendre une douche pendant des semaines dans l'unité psychiatrique du Centre de soins de longue durée Saint-Laurent. L'établissement dit avoir eu recours à ces mesures de façon limitée à cause de la pandémie, tandis que les employés puis même des experts qui se questionnent. On comprend que ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques, là. Des cas de démence probablement et autres. Mais on remarque qu'il y avait des demi-portes qui confinaient les résidents à leur chambre un an après le début de la pandémie et un mois après avoir reçu le vaccin. On les a enfermés, là. Elle dit que s'il n'y a pas si longtemps qu'on a enlevé la demi-porte qui la gardait embarrée dans sa chambre, et de telle sorte qu'elle ne pouvait voir à l'extérieur de sa chambre de son fauteuil roulant. Elle dit, je cite, là, c'était invivable. Ça fait plus que 8 mois qu'on est enfermés, confinés à nos chambres, entre 4 murs, sans droit de visite la plupart du temps, sans accès à l'extérieur. C'est comme si on était en cage. Comprends, là, pourquoi il y a des mesures qui sont prises. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans des résidences qui n'ont pas sorti, là, qui ont été comme confinés avec quelques rares sorties, là, puis qui mangent à l'intérieur. Hey, c'est pas drôle, là. Puis quand la question est soulevée aux gens de santé publique, ils disent, bien, on n'a pas le choix, puis on ne veut pas que ça se répande à l'intérieur, par exemple, de RPA ou de centres de soins de longue durée. Je vous invite à lire ça, on va essayer d'en comprendre un peu plus, mais sérieusement, là, c'est... Et on sait que ça existe, là. Je vous en parle de temps en temps, je reçois des courriels. Ma mère est dans une résidence, elle est comme embarrée, puis elle sort à peine, ou... Puis là, tu soulèves ça à la santé publique, puis on te répond, bien, on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez, mais là, il y a d'autres experts qui pensent que c'est peut-être pas, disons, très, très justifiable. Maintenant, parlons de Martin Prudhomme, ça va faire 2 ans qu'il a été suspendu de la Sûreté du Québec. Pourquoi? D'abord, ça a pris du temps à le savoir, mais la raison officielle, c'est un appel logé bien avant à Annick Murphy, la patronne du DPCP, qui s'en va d'ailleurs, ou qui est peut-être même partie, là, je sais pas, pour vérifier, et un appel qu'elle n'aurait pas apprécié. Bon. Et cette affaire-là est réapparue quelques années après. Puis là, c'est devenu l'objet d'une enquête. En résumé, les enquêteurs du BEI ont conclu après 1 an qu'il n'y avait rien de criminel là-dedans. Donc, pas d'accusation. Tu dis, OK, il va revenir. Non. On lance une opération administrative. Et là, ça dure. Et ça s'étire. Et même si on pose des questions, réponse de la ministre Guilbeault, toujours la même. Je ne veux pas me mêler des enquêtes. On comprend. On ne veut pas que le politique se mêle des enquêtes. Mais y a-t-il quelqu'un qui demande à la machine pourquoi c'est si long? Pourquoi le BEI a encore besoin d'années d'enquête dans le dossier du projet Serment? Puis des fuites à l'UPAC. Pas croyable, là, quand on y pense. Mais je reviens à Martin Prudhomme. Donc, après 1 an, on dit, M. Prudhomme, il n'y a rien de criminel contre vous. Parfait. S'il arrive, ah ben là, on va faire une autre enquête. Et je vous disais donc qu'il y a des recours, ce serait compliqué là, de mettre ça sur la table ce matin, mais il y a des recours qui sont là. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que la CAQ a adopté le projet de loi qui prévoit que l'Assemblée nationale peut destituer Martin Prudhomme. Entre autres, là, il y a des postes, là, dont celui du directeur général de la Sûreté du Québec. Si la CAQ pense que c'est bien grave ce que Prudhomme a fait, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas le soumettre à la destitution? Réponse, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils n'auront pas le 2/3. Fait que pendant ce temps-là, tu paies ce gars-là à rester chez eux, à rien faire. Il est toujours en titre. Tant que son mandat ne sera pas terminé, tant qu'il n'aura pas démissionné ou qu'il ne sera pas destitué, le directeur général de la Sûreté du Québec. Et tout ça est une histoire de machine administrative, de frustration. Je ne me lancerai pas là, dans toutes les analyses ce matin, mais je mettrai un autre petit point sur la table. On est en pleine crise de la pandémie, ça fait 1 an. Le gars est blanchi des accusations criminelles. C'est quelqu'un qui pense que Martin Prudhomme aurait pu jouer un rôle, disons, dans cette période de crise nationale. Il est payé, là. Il s'est offert. Il a envoyé une lettre. 0 réponse. On n'a pas besoin de lui. Parfait. Il reste chez eux, puis on le paye. Il va rester chez eux combien de temps encore à être payé à rien faire? Sérieusement, puis il y en a d'autres cas, là. Daniel Renault en parle ce matin, Antoine Robitaille aussi. Toute cette machine-là, administrative, savez-vous quoi? Je suis rendu à penser, même dans certains cas, qui racontent des histoires aux politiques, comme on voit en santé. Là, tu sais, on dit là, au ministre qui va entendre, là, ah, ayez pas peur, il n'y a pas de cas de cancer qui nous échappe, tout va bien. Le délestage, ah, ça n'affecte pas de monde, ça. On ne manque pas de masques, monsieur le ministre. Bien, en sécurité publique, c'est la même affaire. Vous ne savez pas ce qu'on a trouvé, c'est épouvantable. Je ne peux pas vous le dire, vous comprenez. Et là, c'est des petites passe-passe, puis les gens embêtent, puis on règle les comptes. Et entre-temps, bien, il y a des gens qui sont payés à rien faire, il y a des gens qui sont payés à multiplier les mois d'enquête pour aboutir à on ne sait pas quoi dans un avenir assez lointain. Merci. Alors, vous pourrez lire ça ce matin. Maintenant, je sais rapidement qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, il arrive quoi avec les remboursements de billets d'avion, les vols qui ont été annulés. J'ai bien des histoires là, isolées de gens qui ont réussi à se faire rembourser pour toutes sortes de raisons. Totalement, en partie, bon, il y a toute la notion de crédit. Alors là, Radio-Canada dit que Ottawa serait finalement prêt de conclure une entente avec les compagnies, un programme de soutien de 9 milliards. C'est le président du syndicat d'Unifor qui prétend ça, que la plupart des compagnies demandent une aide financière d'Ottawa, mais WestJet qui souhaite que le gouvernement donne la priorité à un plan pour redémarrer l'industrie en toute sécurité. Et on sait qu'une des conditions, c'est le remboursement. Donc, ça voudrait dire que les gens finiraient, les gens qui ont vu donc leurs vacances, leur vol annulé, à être remboursés. Mais là, il faut faire bien attention, là, il n'y a pas d'annonce encore officielle. Dans la Gazette, ça fait une couple de jours qu'on parle de l'histoire de ce libraire qui est carrément jeté à la rue. Là, il est obligé de quitter son commerce de la rue Saint-Viateur, donc à Montréal. Pourquoi? Parce que son propriétaire, Schiller Lavey Realties, a décidé d'augmenter de façon assez substantielle le prix de son loyer. Et on sait que cette société possède beaucoup, beaucoup de propriétés à Montréal. Et c'est quand même, les rois là, de la location dans plusieurs secteurs. Alors, le monsieur en question est là depuis 15 ans. Il dit maintenant qu'il est obligé de fermer parce que la hausse du loyer est absolument délirante. Puis on comprend le contexte actuellement difficile. Il habite le quartier depuis longtemps également. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors là, il y a des gens qui protestent dans le secteur. Et qui trouvent ça épouvantable parce que qu'est-ce que ça fait? Bien, ça pousse des commerces, ça pousse des gens, disons, peut-être à plus faible revenu à quitter et ça change le visage des quartiers. Alors, dans The Gazette, vous retrouvez ça ce matin. Journal de Montréal, le nombre de plaintes concernant l'usage du français à Montréal a augmenté depuis 5 ans. C'est un sommet. L'Office a reçu 1048 plaintes de personnes qui estiment ne pas avoir pu se faire servir en français. Il y a 5 ans, c'était moins de 500, c'était un petit peu plus de 400, si vous voulez. Et dans plusieurs régions, et surtout Montréal, c'est une année record en termes de plaintes. Là, est-ce que les plaintes sont fondées? Quels ont été les constats qui ont été faits? Mais c'est clair là, qu'il y a vraiment un problème et que c'est toujours pareil dans ces cas-là. Est-ce que les gens portent plainte plus volontairement? Est-ce que ça signale une détérioration du fait français à Montréal, de l'incapacité, là, c'est pas juste d'être accueilli, là, c'est l'incapacité de se faire servir en français dans certains établissements. Et un mot pour vous dire aussi, que ça c'est assez spécial, parmi les plus grands gaspilleurs de bouffe dans le monde, on retrouve les Canadiens. Je lisais l'article dans Le Devoir, c'est un rapport des Nations Unies où on nous indique que les familles jettent des tonnes de nourriture, là. Du vrai, vrai gaspillage. Et dans le cas du Canada, c'est un des endroits les pires dans le monde. Quand on parle de pays riches qui gaspillent, là, ça a l'air qu'on gaspille même plus que les Américains. Tu sais, on a l'impression qu'eux autres, là, ils te remplissent les poubelles. Mais au Canada, c'est un peu la même chose. Et vous avez des chercheurs qui disent que le gaspillage était considéré comme un problème de pays riches, mais notre rapport montre que dans chaque pays, l'ayant mesuré, le gaspillage est un problème. Puis c'est le gaspillage domestique. Il y a d'autres pertes en alimentation, mais là, on parle vraiment de la bouffe qui, malheureusement, finit aux déchets. 6h23 minutes. Autoroute des Laurentides, monsieur.